Quelque chose avec vous qui me tient à cœur, qui me tient vraiment à cœur, et c'est des choses qui m'ont, je l'espère, que j'ai mis du temps à assimiler, à comprendre, et j'espère que ce matin je vais pouvoir vous faire comprendre ces choses-là et vous donner des exemples, j'espère, pertinents. J'espère que vous allez repartir vraiment sincèrement avec quelque chose ce matin, parce que c'est un message peut-être un des plus personnels que j'ai donné, même si ça, on va prendre des choses. On va dire général de la Bible, mais c'est peut-être un des messages le plus personnel, un des messages qui m'a fait le plus progresser depuis ces dernières années, où j'ai compris un certain nombre de choses. Je vais vous donner le titre et vous allez comprendre tout de suite, même si Michel, l'apôtre Michel l'a donné la semaine dernière, donc c'était plutôt drôle. Mon titre, c'est, vous allez même pouvoir le terminer parce que vous connaissez cette formule, tel père, tel fils, voilà. Michel l'a dit la semaine dernière. Et je ne savais pas, mais les enfants aussi voilà, vont parler sur le Notre Père aujourd'hui. Donc je vais prendre appui sur le Notre Père, je crois, aujourd'hui. Non, du coup, tu n'as pas d'enfants? Ils sont tous partis? Ok. Avec les... ça pour... bah, tu vas apprendre le Notre Père, c'est bien. Tu montes d'une classe. Et je crois que JD est parti parce que ses petits étaient malades aussi. Donc, décidément. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose à briser, je pense. Mais bon, voilà, c'est pas le sujet de ce matin. Donc du coup, tel père, tel fils, pourquoi? Avant d'être chrétien, mais même encore maintenant, je l'entends, avant d'être chrétien, j'entendais la plupart des hommes que je connaissais dire « je ne serai jamais comme mon père ». Je ne serai jamais comme mon père. Cette phrase-là, je l'ai entendue peut-être pas des centaines de fois, mais je veux dire, quand on avait des conversations avec des amis, des fois en soirée, quand on comparait un peu nos vies, etc., cette phrase-là, je l'ai entendue plein de fois. Peut-être que vous aussi, je ne vais pas vous faire lever la main pour savoir si vous l'avez entendue. En tout cas, moi, je l'ai dite. Voilà, amen, pas amen, bon, pas amen, mais on verra. C'est des choses que, voilà, c'est des choses qu'on entend, c'est des choses qu'on a dit. Et j'ai un problème avec cette phrase parce qu'en fait, je l'ai dite de mon père. J'ai des relations tout à fait particulières avec mon père. Et le problème, c'est que j'ai aussi entendu mon père dire ça de son père, donc de mon grand-père. Donc, si mon père ne veut pas être comme son père et que moi, je ne veux pas être comme mon père, comme qui je dois être en fait? Qui sera le socle, qui sera la fondation, quel père va m'apporter cette fondation, ce socle qui va me permettre de grandir, moi, en tant que fils ou en tant que fille, parce que ça marche aussi pour les filles, pour les femmes, qui va pouvoir m'apporter cette solidité de base que doit apporter un père. Et à travers ça, on va se poser un certain nombre de questions. Et j'aimerais bien j'espère pouvoir vous révéler quel est le véritable cœur du Père ce matin. J'espère vraiment qu'on va pouvoir en tirer des choses. Alors juste avant de commencer, est-ce que vous savez le nombre de fois où le mot Père et ses dérivés sont donnés dans la Bible? Une fourchette, un chiffre? Ça aurait été trop facile. Plus de 1000 fois. Plus de 1000 fois dans la Bible, il y a le mot Père. Donc on voit que c'est quand même une notion qui est déjà... très importante. Il y a différentes traductions, et j'y reviendrai un petit peu dans mon message ce matin, il y a différentes traductions avec plus ou moins de proximité ou de formalité. Voilà, donc j'en reviendrai un petit peu là-dessus. Dans l'Ancien Testament, d'après vous, dans quel livre on lit le plus de fois le nom Père dans l'Ancien Testament? Non, pas Lamentation, mais c'est vrai. Ça aurait pu. C'est les psaumes. Les psaumes, 111 fois. Sans soi, parce que c'est logique, entre guillemets, que ce soit dans les psaumes, parce que les psaumes, ce sont soit des louanges, soit des prières qu'on adresse à notre Père. Donc c'est pour ça qu'on le trouve, on le retrouve 111 fois, plus de 111 fois. Et la même question dans le Nouveau Testament, alors je vais réduire un petit peu le champ, dans le Nouveau Testament, chez les apôtres, lequel des apôtres nomme le plus de fois le mot Père? J'ai entendu la bonne réponse. Jean? Oui, je l'ai entendu aussi par là-bas. Ouais, Jean. Jean avec 121 fois. Après, c'est normal parce que Jean, je ne te l'ai pas mis, Norbert, t'inquiète pas, chapitre 20, 31, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc Jean, ça, il nous a donné clairement le but de son évangile avec ce verset-là, en proclamant qu'il voulait nous faire découvrir le Fils. Alors forcément, vu qu'il va nous parler du Fils, à un moment donné, il va nous parler du Père. Donc ce matin, on va prendre un texte que certains, même non-croyants, Moi-même, étonnamment, je ne sais pas pourquoi, mais je le connais par cœur. Et c'est le Notre Père ce matin. On va le prendre dans Luc, au chapitre 11, au verset 1 et 4. Donc dans Luc, chapitre 11, verset 1 et 4, il s'affiche derrière. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père ». Que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense, et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. » Très connu, n'est-ce pas ? Tout à fait connu. Et à travers notre Père, je vais essayer de vous refaire ressortir cinq caractéristiques du cœur de Dieu. Cœur de Père de Dieu pour nous ce matin. Alors on va commencer directement. Le premier, c'est celui qui nous a adoptés. L'enseignement, il démarre comment ? Il démarre par notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Ça démarre exactement comme ça. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait en nous apprenant à prier de cette manière-là ? Et Jésus, il commence par nous placer sous une filiation, sous une adoption, sous une lignée. C'est notre Père. Et notre, c'est un adjectif possessif. C'est un adjectif possessif. Nous lui appartenons. Donc si nous lui appartenons, c'est QFD, nous faisons partie de sa lignée, nous sommes des héritiers, nous sommes des enfants adoptés. C'est notre Père. Il y a aussi beaucoup de phrases qu'on a entendues. Je pense que vous l'avez aussi entendue. Combien de personnes ont pu dire « Ce n'est pas mon Père, c'est mon géniteur ». Ça, on l'a beaucoup entendu. Je l'ai beaucoup entendu. Elle n'est pas là, mais ma femme l'a dit. Elle s'est réconciliée avec son papa depuis, mais c'était... Elle ne l'appelait pas papa, enfin, elle a mis beaucoup, beaucoup d'années à l'appeler papa. Elle le considérait comme son géniteur. Et d'autres ont peut-être plus qu'un géniteur, mais il y a des parents, des papas qui sont là, qui sont des fois distants, violents, indifférents, absents, présents physiquement, mais avec une pression psychologique constante. Indifférent, alcoolique, dépressif, on peut mettre plein de choses. Et ce simple début de prière-là que nous enseigne Jésus, les amis, ça nous positionne déjà en tant qu'enfants. Même si nos pères physiques, terrestres, ont des manquements, on se positionne déjà sous la filiation de Jésus, de Dieu, avec ce démarrage de prière-là. Nous sommes des fils et des filles ce matin. Et le mot père qui est utilisé précisément dans cette traduction, c'est pater en grec. Je préfère la version hébreu, vous me connaissez maintenant. Je préfère la version hébreu où il dit « Avinu ». C'est mignon, on dirait le nom d'un petit animal. Ça dit « Avinu » en hébreu, et c'est exactement l'opposé du géniteur. Parce qu'il y a une notion d'amour. Dans cette traduction-là, il y a une notion d'amour, de dépendance, d'appui, d'aide. Et d'amour sans condition. Ça, c'est quand on prend les traductions, il y a vraiment cette notion-là dans la traduction qui sont importantes. Et c'est le mot que là, Jésus va utiliser. Parce qu'il y a d'autres mots qui peuvent dire père, qui amènent une certaine forme de distanciation, etc., de distance plutôt. Il utilise vraiment volontairement ce mot-là, qui va nous rappeler, nous positionner en tant que personne aimée sans condition. Et ça, c'est très intéressant. On peut le retrouver aussi dans Romains 8, 15, si tu veux bien l'afficher, Norbert. Romains 8, 15. Et vous, n'avez-vous point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Abba, c'est encore une autre forme du mot « Père », donc là, c'est doublé. Abba, c'est aussi une notion de... C'est un petit peu près la même chose, sauf que Abba, il y a une forme aussi un petit peu formelle, mais en même temps, il y a de l'amour. Enfin, c'est un petit peu difficile à expliquer parce que c'est vraiment, pour le coup, c'est très hébreu. Donc, vu qu'il y a beaucoup de respect pour les personnes âgées, pour les anciens, etc., qu'on a beaucoup perdu, nous, dans notre culture aujourd'hui, ce mot-là est difficilement traductible, on va dire, stricto sensu, pour le sens strict. Mais il utilise Abba, Père, vraiment pour nous ramener aussi dans cet amour-là. Donc, il y a des choses qui sont... Pourquoi Abba, Père ? Quelque chose qui est drôle. Bon là, mes filles, vous les avez vues tout à l'heure à l'œuvre. Quand elles veulent absolument obtenir quelque chose de moi, mes filles, elles commencent leur phrase en disant « Papa d'amour que j'aime de tout mon cœur ». Bon, évidemment, je suis pas un bleu. Hein. Je vois arriver derrière la demande précise. Je le sens arriver qu'il va se passer quelque chose. Mais en attendant, mon cœur de père, il est attendri. Et mon oreille est attentive. Alors que si nous, si on fait exactement la même chose, si on dit notre père, si on dit papa, quand on s'adresse à Dieu pour nos prières, je pense qu'il fait exactement la même chose dans le ciel. Il vient, son oreille devient attentive et son cœur devient disposé à écouter ce qu'on a à lui demander. Peut-être qu'il ne dira pas oui, mais en tout cas, son oreille et son cœur seront disposés à nous écouter. Donc c'est vraiment notre papa. Il faut qu'on s'adresse à lui de cette manière. Je sais que pour certains, beaucoup, c'est des choses qui peuvent parfois être difficiles. Moi, le premier, j'ai mis des années avant de prier en disant papa, des années et des années, parce que j'ai des choses encore à guérir avec mon père aujourd'hui. Ça a été difficile, et même ne serait-ce que prononcer, parce qu'il y a eu une phase après, du coup, je le disais dans ma tête, mais après, il a fallu le prononcer. Et ça a été encore une autre étape, vraiment une autre étape, parce qu'il fallait que je comprenne que j'étais un enfant adopté de Dieu et que j'avais un père qui, lui, était parfait au ciel et que je ne pouvais pas, à cause des manquements de mon père terrestre, ne pas m'adresser avec amour, avec sincérité à mon Père céleste. Voilà. Deuxième chose, ce sera celui qui nous guide, celui qui va nous guider. C'est écrit après que ton règne vienne dans notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et si on veut faire la volonté de Dieu, ça veut dire qu'il a une volonté pour nous. Ça, c'est évident, vous allez dire, évidemment. Mais ça veut dire qu'il a un plan pour notre vie. Ça veut dire qu'on sera lié à lui par ce plan-là à partir du moment où on fait sa volonté. Et vu que c'est un bon père, il va nous guider. Il va nous guider pas à pas, un pas après l'autre. Pour illustrer un petit peu ça, on va se mettre en condition comme si on allait partir faire une randonnée avec un guide. Si on prend un guide avec nous, on arrive, on est chargé dans conditions de randonnée, sac à dos, des vivres, etc. Tout ce qu'il faut pour faire une bonne randonnée, mais de manière technique. Donc en gros, comme si on s'apprêtait à aller affronter la vie. On arrive au pied d'une montagne. Le guide arrive et il nous dit, tu vois tout là-haut, là ? Là, tu vois pas trop parce que c'est même dans les nuages tellement c'est haut. Il dit, c'est là qu'il faut que tu arrives. Allez, ciao, moi j'y vais, je prends de l'avance. Et il se taille. Et tu regardes, là, t'as ton sac de 25 kilos, tes vivres, en plus il commence à avoir 2-3 nuages gris, tu vois qu'il fait pas beau, il y a des tempêtes qui se préparent, peut-être de la pluie, et tu dis mais attends, c'est quoi ce genre de guide? Et là tu regardes tout ce que tu as à faire et tu vas te décourager, tu vas pas y aller parce que le guide qui était censé t'aider, il s'est barré. Alors que finalement le guide, il est là avec toi, pas à pas, qui vient, il t'aide à porter tes affaires, il vient te montrer des abris à certains moments, quand il y a vraiment la tempête qui arrive, quand il pleut, il est capable de te faire à manger, capable de te retrouver des réserves d'eau, il est capable de t'accompagner pas à pas. Et quand tu arrives au sommet, il dit maintenant retourne-toi. Et quand tu vois tout ce que tu as accompli, tu vas dire ah ouais, mais tu ne l'as pas vu passer parce que tu avais un guide avec toi, parce que tu avais cette personne-là qui était là pour t'accompagner, qui était là pour t'aider à chaque moment de souffrance. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire avec nous. Il va nous emmener de plus en plus haut. Et quand on pourra se retourner à la fin de notre vie, en tout cas je l'espère, on pourra regarder, on pourra contempler le chemin qu'on a parcouru avec lui. Et on va se dire, waouh, merci Seigneur, parce que ça n'a pas été facile. Je me rappelle, là je me suis tordu la cheville ici, là il pleuvait, machin. Et finalement, on aura accompli de grandes choses grâce à lui, grâce au fait qu'il nous guide. Et il nous aura aussi, il nous permettra d'éviter d'avoir envie d'abandonner, d'avoir envie d'échouer. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire avec nous. Nous sommes des individus pour lui qui sommes uniques. Nos empreintes digitales sont uniques, on a plein de choses qui prouvent sur Terre qu'on est unique. Et il y a une citation de l'écrivain Oscar Wilde, que j'aime beaucoup, il dit « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. » Et je pense que Dieu nous dit au moins un minimum la même chose, et même pire, enfin mieux que ça, il dit soyez vous-même parce que j'ai un plan prévu, précis pour vous. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Mine de rien, la culture moderne nous pousse à l'uniformité. C'est-à-dire, quand on voyage, on peut le voir dans le monde entier, tu retrouves toujours les mêmes chaînes de restaurants. Je ne ferai pas de pub pour des fast-foods ou des cafés avec une sirène verte dessus. Mais ça nous pousse à l'uniformité. Des fois, on se pense originaux, on l'est, intrinsèquement on l'est, mais finalement on ne fait quelque part qu'appartenir à des petits groupes. Et Dieu, en fait, veut, lui, nous considérer comme des êtres uniques à part entière. Il veut surtout pouvoir faire en sorte de nous amener dans le plan prévu pour nous. J'aimerais bien qu'on lise aussi dans la parole Ésaïe 58, 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. C'est un très beau verset et c'est vraiment ce que Dieu veut faire pour nous. C'est dans son cœur de Père, il veut absolument nous guider. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit tous être riches, en pleine santé, comme moi aujourd'hui, avec un gros véhicule, une énorme maison? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, ça, c'est ce que je viens de vous énumérer là. C'est plutôt la société qui veut ça pour nous. C'est le bonheur d'après la société de ce monde. Dieu, lui, il veut pas ton bonheur, il veut que tu sois heureux. Et ça, c'est toute la différence, parce que si Dieu veut que tu sois heureux, ça veut dire que c'est un bon père. Moi, que ma fille, elle vend des crêpes dans un camion, ou qu'elle soit architecte ou médecin, en fait, je m'en fiche à partir du moment où elle est heureuse. Et Dieu, c'est exactement la même chose pour nous. C'est exactement la même chose. Et il nous a mis des aspirations dans notre cœur. C'est pas un problème de vouloir être riche ou quoi que ce soit. C'est même pas ça la question. C'est juste qu'il nous a mis des aspirations dans notre cœur. Et juste, il faut essayer de pas être pollué par tout ce qui nous environne pour pouvoir vraiment répondre à son aspiration qu'il a pour nous, pour pouvoir être aligné pleinement entre son plan et notre vie et notre cœur. Et ça, c'est très difficile à faire aujourd'hui parce qu'on a des distractions dans tous les sens. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent d'écouter sa voix. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent d'écouter sa voix. Et malheureusement, on ne sera pleinement heureux que lorsqu'on sera aligné entre son envie pour nous et ce qui nous a placé déjà intrinsèquement à l'intérieur. Donc, il faut un alignement assez parfait avec ce qui nous a placé plus son plan à lui. Merci, Tita. En troisième point, et pas des moindres, c'est celui qui pourvoit. Dès qu'on a un besoin, on sait qu'il peut y répondre, on sait qu'en tout cas, il fait peut-être même déjà plus que ce qu'on pourrait espérer. Pourquoi je dis ça? Parce que dans notre Père, c'est écrit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Donc c'est une formule qu'on se récite, etc. Mais Dieu est celui qui connaît nos besoins, et en plus, au-delà d'y connaître, il y répond. Je pense que des fois, on peut être un peu frustré dans nos prières, beaucoup de fois, parce qu'on pense avoir besoin de telle ou telle chose et qu'on attend des réponses et des solutions à des situations en fait, qui sont parfois pas de véritables problèmes. En fait. Je prends encore un exemple, mes filles en exemple ce matin, mais quand mes filles pleurent parce qu'elles veulent absolument mettre leurs bottes de neige alors qu'il fait 35 degrés dehors. Évidemment, je vais leur dire non. Est-ce que ça fait de moi un mauvais père? Non. Bon. En fait, c'est juste qu'elles veulent choisir un équipement qui n'est pas adapté pour la saison qu'elles traversent. Ok ? Est-ce que nous, on n'aurait pas tendance des fois à faire pareil ? Est-ce qu'on aspire ou on désire des choses qui ne sont pas adaptées en ce moment à la saison dans laquelle on traverse ? Et on pense que Dieu est un père fouettard ou Dieu ne répond pas à nos prières juste parce qu'en fait, il va nous dire non sur quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas utile dans la saison par laquelle on passe. Il faut vraiment qu'on apprenne à discerner les besoins que l'on a pour être équipé. Il faut vraiment qu'on apprenne à aiguiser notre oreille sur le Saint-Esprit pour être équipé d'une manière correcte dans la situation et la saison que l'on traverse. J'aimerais bien qu'on lise aussi ensemble Matthieu 6, 26, 32. Matthieu 6, 26, 32. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Point d'interrogation. Ne valez-vous pas plus qu'eux ? Bien sûr que si, aux yeux de Dieu, on est la suprématie de sa création. On est ses enfants, on est sa plus belle création. Parce qu'il nous a fait à son image, c'est écrit dans la parole, il nous a fait à son image. C'est-à-dire qu'on est pour lui le summum de ce qu'il a créé. Alors si des fois tu te trouves avec des défauts, N'oublie pas que tu es le summum de ce qu'il a créé. Si des fois tu trouves que tu as un peu trop de ventre, que tu as l'œil un petit peu trop comme ça, ou l'oreille un petit peu décalée, ou décollée, n'oublie pas que tu es le summum de sa création. Il ne faut jamais, 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 jamais l'oublier. Le cœur de Dieu, c'est de répondre à nos véritables besoins. Il ne nous abandonnera jamais, ça c'est sûr, sur tous les points. Et parfois même, ça va de détails, des fois totalement superficiels, jusqu'aux miracles les plus extraordinaires. On pourrait vous en citer, avec ma femme et moi, on pourrait vous en donner tellement, sur le fait que Dieu pourvoit. Ça, s'il y a bien une certitude qui ne me fera jamais bouger, celle-ci, Dieu pourvoit, ça c'est sûr et certain. J'en suis plus que archi convaincu. Des petits détails comme la cravate qui m'a été gentiment offerte par Jannick et Christian, sur des choses beaucoup plus importantes, à des moments beaucoup plus cruciaux et beaucoup plus durs de notre vie. Ça, je peux vous en assurer à 100%. Et vous avez remarqué à quel point la société d'aujourd'hui a essayé de remplacer Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas faire de publicité, mais il y a beaucoup de marques qui, en moins de 24 heures, peuvent vous livrer ce que vous avez envie de l'autre bout de la planète avec un drone. Ça peut être de la nourriture que vous pouvez commander en un claquement de doigts sur votre téléphone. Ça peut être des vacances de dernière minute à prix totalement réduit. Tout est fait pour que nos besoins soient instantanément répondus. Et ça, les amis, pareil, ça nous empêche de voir à quel point Dieu pourvoit pour nous, parce que des fois, on remplace Dieu par Amazon ou par d'autres formes qui nous permettront d'être instantanément rassasiés de nos envies. Je ne dis pas de nos besoins, je dis bien de nos envies. Et tout ça, les amis, ne vous y trompez pas, c'est fait exprès pour remplacer le cœur intérieur de Dieu, tout ce qu'il a envie de répondre à nos besoins, et hop, et toc, 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 il y aura d'autres biais pour pouvoir y arriver, et c'est uniquement pour nous empêcher de se rendre compte à quel point son cœur est bon pour nous. Donc soyez assurés, hein, nous aurons toujours notre pain quotidien. Ici, on en gaspille, ici, on en jette du pain quotidien. En Afrique, c'est une toute autre question. Dans d'autres pays, c'est une toute autre question. Mais on aura toujours ce qu'il faut. Le psaume 37,4, un des plus beaux psaumes, à mon sens, qu'on peut afficher si ce n'est pas déjà fait, psaume 37,4. Je pense même que vous le connaissez presque par cœur. Fais de l'Éternel tes délices. Exactement, et il te donnera ce que ton cœur désire, amen. Mais en premier lieu, il faut faire de l'Éternel ses délices. Et pas Burger King, non, je plaisante. Quatrième point, et un des plus difficiles, alors pour ma part, ça a été un des plus difficiles à accepter, celui qui nous aime sans condition. Celui qui nous aime sans condition, pourquoi je dis ça? Parce que dans notre Père, alors c'est pas forcément évident, mais pardonne-nous nos offenses. La culpabilité, les amis, c'est l'ennemi numéro un, je dirais presque, du chrétien. La culpabilité. Est-ce que si une de mes filles, encore une fois, avait fait une bêtise à l'école et que pendant 3 semaines, elle s'enferme dans sa chambre, elle ne veut plus me parler? Est-ce que vous trouvez ça bizarre? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que moi, en tant que père, comment je pourrais réagir? Enfin, elle a fait une bêtise à l'école, elle ne veut pas m'en parler, ou elle le garde pour elle, et elle est en train de se renfrogner, elle s'estime plus digne de me parler, parce qu'elle a fait une bêtise à l'école. Elle sait que j'ai peut-être la disputer, ça c'est possible, mais en tout cas, elle ne s'estime plus digne de venir me parler. Est-ce qu'on a déjà, nous, en tant que chrétiens, vécu cette sensation-là? Se dire, je ne vais plus... Non, j'ai vraiment fait une trop grosse bêtise, je ne vais plus à l'église. Ou je ne peux pas aller à l'église, je ne mérite pas, je ne peux pas aller avec mes autres frères, eux ils sont bien, moi je suis quelqu'un de pas bien, je suis plus bactère, etc. Et en fait tu te renfermes complètement, et ce n'est absolument pas ce que Dieu veut. Dieu, moi, en tant que père déjà, naturellement, je préférerais que ma fille elle vienne me voir, qu'on en discute, qu'on puisse en parler. Je lui donnerai peut-être des conseils. Peut-être que je la gronderai un petit peu, parce que suivant la gravité ou non, mais en tout cas, je préférerais qu'elle m'en parle et qu'on essaye de trouver des solutions pour ne plus qu'elle retombe à faire cette bêtise-là. Et des fois, on a tendance à se culpabiliser nous-mêmes, à ne plus se penser digne de venir dans la maison de Dieu ou de partager des choses avec des frères et sœurs uniquement par culpabilité. C'est absolument pas ce que veut Dieu. Peu importe ce que tu fais comme bêtise, Dieu veut que tu viennes lui parler et lui dire. Ça, c'est sûr et certain. Qu'on ne reste pas sur notre propre condamnation. Okay. J'aimerais bien qu'on lise ensemble Colossiens 3:13. S'il vous plaît, Colossiens 3:13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc là, il y a deux volets dans ce verset-là. Il y a le pardon à nous-mêmes et le pardon aux autres. Ça, c'est la même chose, les amis. Si un frère est parti dimanche et tu ne sais pas pour quelle raison il ne t'a pas dit bonjour, la fois d'après, tu ne viens pas à l'église parce que ce frère-là ne t'a pas dit bonjour. Non, non, bah non. S'il vous plaît, ne tombons pas dans ces pièges aussi grossiers que ça. Déjà, on se pardonne à nous-mêmes, ce que j'expliquais juste avant, et après, on pardonne aux autres. Soyons au maximum à l'image de Jésus-Christ et on puisse se pardonner à nous-mêmes et se pardonner aux autres. Le Seigneur, il veut tout simplement qu'on reconnaisse nos fautes et qu'on vienne se soumettre humblement dans la prière. C'est juste ce qu'il veut. Alors des fois, c'est facile à dire, je le sais, hein, mais c'est pas forcément facile à faire. Moi, le premier, il y a des fois où ça m'arrive de faire des trucs et je me dis merde. Et puis du coup, au lieu de prier, ça cogite. Et fait, j'ai perdu peut-être une demi-journée à cogiter, alors que si j'étais allé devant mon Père Céleste tout de suite, j'ai dit, ah, pardon, là, la situation là, j'ai dit une bêtise sur le collègue ou sur la collègue, j'ai fait ci ou j'ai fait ça, pardon, et on passe à autre chose en fait. Je n'ai pas cherché à l'intérieur de moi-même comment j'aurais pu faire pour ne pas tomber dans cette situation-là, après coup. Mais déjà, commence déjà par aller devant ton Père Céleste et lui dire, voilà, j'ai merdé, hein, on va dire les choses comme elles sont, j'ai merdé, et il faut que tu m'aides. Et une fois que tu auras remplacé la culpabilité par sa paix à lui, tout ira mieux. Il nous aime pour ce que nous sommes et pas pour ce qu'on fait pour lui. Ça, on le dit, on le répète, mais c'est une véritable chose. Et pour parler encore de ma vie, j'ai passé 30 ans sans Dieu. C'était long. J'ai passé 30 ans sans connaître Dieu. Et donc je vivais dans une maison, où je vivais avec mon grand-père, avec ma cousine et mes parents. Donc mon grand-père que j'aimais beaucoup, c'est lui qui m'a principalement élevé, mais il est alcoolique. Bon, voilà, c'était donc une famille un peu dysfonctionnelle. On a recueilli ma cousine parce qu'elle avait subi des abus dans sa belle famille. Enfin donc voilà, donc c'était un peu bizarre de vivre tous sous le même toit. Mon père, en fait, à l'époque était mon coach sportif. Donc il était mon coach de boxe, mon coach de foot, mon coach de tennis. Peu importe si j'excellais, parce qu'à un moment donné, j'ai failli devenir pro au football comme Tyrone. Peu importe si j'excellais, si c'était moi le meilleur, il a été là pour pointer à la 47e minute. Là tu aurais dû faire une passe là, passe décisive, tac, but, machin. Et même si j'avais été le meilleur, ce qui était souvent le cas, c'était, ou même pour les matchs de boxe, voilà, enfin bref, tout était sujet. Il n'y avait jamais le positif qui était relevé en fait. Donc j'étais toujours dans le faire. Et au début de ma vie chrétienne, et peut-être encore aujourd'hui, il faut peut-être que je me calme, d'ailleurs l'hernie est peut-être là pour me rappeler des choses, je voulais tout faire par mes propres forces, je voulais tout comprendre, je voulais tout, dès qu'il y avait un besoin à l'église à l'époque à Chenauve, j'étais tout le temps là, il m'appelait, j'étais tout le temps là, parce que j'étais dans le faire, parce que je pensais que l'amour de Dieu, la reconnaissance de Dieu, elle est passée par là. Alors il faut servir. C'est pas du tout ce que je dis, mais c'est juste qu'en fait, il y a des fois où c'est pas équilibré. Il y a des fois où c'est pas du tout équilibré. Parce qu'on s'imagine peut-être que plus on va faire, et plus on aura l'amour de Dieu, mais pas du tout en fait. Moi, mes filles, évidemment, si elles peuvent débarrasser la table, je suis content. Mais c'est pas parce qu'elles vont ne pas le faire que je vais plus les aimer. C'est la même chose, hein. C'est exactement la même chose pour Dieu. J'aimerais qu'on puisse lire encore un verset, Jean 13, 15. S'il te plaît Norbert, Jean 13, 15. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Alors, c'est un peu sorti de son contexte, un peu bizarre. C'est quand il lave les pieds aux disciples, à ce moment-là. Mais c'est l'apprentissage par l'exemple. Dieu nous a fait un apprentissage par l'exemple. Et ça, c'est prouvé scientifiquement que l'apprentissage par l'exemple, les enfants, ils s'en fichent de ce que vous dites. Ils vont juste regarder ce que vous faites. Et des fois, on va dire, mais pourquoi il fait ça? Il fait comme moi alors que du coup, je lui apprends autre chose. Parce que c'est pas parce que tu lui apprends, c'est ce que tu vas faire qui va regarder. Et des fois, on s'étonne des comportements. Moi, des fois, je suis choqué. Hein, sur le... Esther, c'est ma copie conforme. Cette nuit, on a dormi, du coup, avec, j'ai encore dormi avec elle, plus les deux à côté. Et même dans sa posture pour dormir, je me dis, mais comment c'est possible? Elle a exactement la même posture. Pourquoi elle ne me regarde pas dormir? Mais sur plein de points de détail, je me dis, mais c'est incroyable, quoi. C'est fou. et puis des façons de bouger. Enfin bref. Du coup, c'est voilà. Dieu veut nous montrer l'exemple. Il s'est incarné par son Fils Jésus. Ça, j'y reviendrai sur le dernier point. L'exemple, les amis. Il n'y a que ça à retenir aussi de notre Dieu. Il nous a aimés en premier, ça c'est sûr et certain, et sans condition. Donc si vous avez des problèmes avec ça, je vous encourage vraiment à demander l'éclairage à Dieu, le sans condition. On a tellement l'habitude, on l'a tellement entendu dans les publicités, souvent mensongères, parce qu'il n'y a pas de conditions. Puis finalement, quand tu as un problème avec le produit, finalement, d'un seul coup, il y a des conditions que tu n'avais pas vues. Avec Dieu, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça c'est sûr et certain. Amen. Et la dernière, c'est celui qui nous a sauvés. Amen. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Et le Seigneur, il le sait à quel point on est tenté. Pourquoi il le sait ? Parce qu'il est venu, comme je l'ai dit juste avant, il a envoyé son Fils, il s'est incarné, et c'est ça aussi qui fait vraiment toute la différence entre notre, je vais dire religion, excusez-moi, mais entre notre religion et les autres. On a un Dieu qui a su se rendre proche de nous. Il nous comprend, il a tout vécu comme nous, il a senti les mêmes choses, le sable chaud, le froid, les pieds qui brûlent, le mal de ventre, le mal de tête, pleurer pour ses amis, une souffrance terrible à la croix. Il s'est incarné et c'est ça qui fait vraiment toute la différence, c'est le fait qu'il se soit incarné, qu'il se soit mis à notre hauteur. Et il s'est souvent mis à la hauteur des gens. Quand vous regardez l'attitude de Jésus, même quand il est avec la femme qui va se faire lapider, il va se baisser pour se mettre encore une fois à son niveau. Il est déjà descendu sur terre, mais en plus de ça, même sur terre, il va chercher à se mettre au niveau. Et ça, c'est aussi l'attitude qu'on doit avoir, nous, l'attitude de cœur, le plus possible, si on veut être des témoins de Christ, c'est qu'on se mette maximum au niveau de celui qui sera en face de nous. Essayer d'aller chercher sur son terrain, de le comprendre sur son terrain. Il y a des fois, c'est pas facile. Il y a des fois, tu vas dire, mais pourquoi je vis telle ou telle chose ? Parce que Dieu t'a emmené sur un terrain sur lequel tu pourras développer une empathie particulière sur le terrain de l'autre. Si on vit certaines choses, c'est pour ça et uniquement pour ça. Et si on le vit, c'est parce qu'on est capable de le supporter. C'est écrit dans la parole. Tout ce que le Seigneur nous fait endurer, on est capable de supporter, sinon il ne nous le fait pas vivre. Et c'est pour nous placer, encore une fois, à la hauteur des autres. Sur le terrain des autres, les amener à comprendre aussi l'amour de Dieu quand on arrivera à se placer à leur hauteur. C'est vraiment ça que Dieu veut pour nous, en s'étant incarné en tant qu'homme. Alors, je veux dire, on a vraiment des tentations partout, partout et tout le temps. Ça, Dieu le sait, et il n'est même pas venu à cette époque-là, mais nos téléphones, je ne peux pas le mien d'ailleurs, nos téléphones, les amis, ils nous espionnent, on ne va pas se mentir, on le sait, hein. Ils nous espionnent, tu parles d'un truc, hop, d'un seul coup, ça arrive, tu ne comprends pas pourquoi, tu dis, tiens, il y a une promotion sur le truc dont je viens de parler il y a 3 minutes. Il y a des tentations partout. Ça, c'est des tentations sympas. Non, pas sympas, mais ça va. Mais il y a d'autres tentations aujourd'hui. Tu vas à un abri de bus, tu vois une femme dénudée en publicité. Tu as des applications qui t'apprennent aussi que tu peux tromper ta femme. C'est une application discrète qui existe. Tu peux tromper ta femme tranquillement. C'est entre gens mariés. Enfin, c'est de la folie. Hein. Et ça, il y a des publicités grandeur nature partout, les amis. La tentation, elle est partout. Elle est de plus en plus grave. Et on le voit avec les courants de pensée qui nous arrivent des États-Unis. Les amis, c'est dramatique. Hein. C'est dramatique. La société dans laquelle on vit, là, ça part vraiment en cacahuète. Hein. Là, il y a encore eu... il y a tellement de... C'est plus des bruits de guerre. Là. C'est vraiment la guerre qui est à nos portes. Il va vraiment falloir qu'on soit solide. Il va vraiment falloir qu'on soit solide. Il va vraiment falloir qu'on ne laisse aucun bout de terrain à l'ennemi. Parce qu'aujourd'hui, tout est devenu corrompu. De la nourriture à laquelle, que l'on ingère jusqu'à nos téléphones. Enfin, tout est corrompu. Tout est fait pour nous faire chuter, les amis. Tout est fait pour nous faire chuter. Et là, il faudra vraiment qu'on se rappelle du sacrifice de Dieu pour nous. Et le fait qu'il nous a sauvés et qu'il s'est vraiment incarné. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a une autre figure paternelle dans la Bible. Il y a une autre figure paternelle dans la Bible et on a tendance à l'oublier. Lisons Jean 8, 44, Jean 8, 44, s'il te plaît Norbert. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et il est le père du mensonge. Si on ne sert pas Dieu le Père, on sert le Père du mensonge, indubitablement. Il a tellement cherché l'ennemi à copier Jésus qu'il s'est même fait appeler le Père du mensonge. Il n'y a pas de juste milieu en fait dans la Bible. C'est soit on sert Dieu, soit on sert le Père du mensonge. Et dans ma vie aujourd'hui, j'ai plus envie de servir le Père du mensonge à aucun moment, mais vraiment à aucun moment. Aujourd'hui, pourquoi je vous dis que je suis fatigué, pourquoi je vous dis que je suis malade? Parce que c'est la vérité. Je ne vais pas faire semblant parce qu'on a un titre de pasteur que ma vie elle est nickel. Hein. J'ai des boutons plein la bouche. Hier, j'arrivais même plus à parler. Grâce à Dieu, j'ai prié cette nuit, j'ai pris autorité. J'arrive à parler. Hier, je zozotais quand je parlais tellement j'avais mal à la langue avec les boutons. J'ai mon hernie qui me fait un mal de chien. J'ai dormi 3 heures. Enfin, je vous garantis que ce matin, si je m'écoute, je reste au lit. Hein. On va se dire les choses clairement comme elles sont. Hein. Et ça sert à rien de faire semblant, les amis. On va pas commencer à rajouter des faux semblants. Cette église-là, c'est une famille. Je le dis tout le temps, je le proclame, c'est une famille. C'est-à-dire que quand une famille, quand on l'a déjà dit plein de fois aussi, mais quand il y en a un qui ne va pas bien, l'autre sera là pour le consoler, l'autre sera là pour l'aider. Et c'est ça qu'on veut. C'est cet esprit-là qu'on veut, parce que ça, c'est l'esprit du royaume, les amis. Ce n'est pas l'esprit du père du mensonge. Je ne vais pas vous faire semblant que ça va bien. Sinon, ça veut dire que mon père, c'est qui? C'est pas le bon. En tout cas, c'est sûr que c'est pas le bon. S'incarner, se rabaisser, c'est vraiment ce que notre Dieu a fait pour nous. Et c'est vraiment ça vraiment qui fait vraiment, encore une fois, toute la différence. Je le dis, je le redis, parce que c'est quand on a certaines autres religions, le fait que Jésus puisse être notre Père, l'amour du Père, ils ne le conçoivent même pas. On va dire les termes. Pour l'islam, savoir que Dieu a pu s'incarner en homme et qu'en plus de ça, il est proche de nous, pour eux, c'est une hérésie complète. C'est une hérésie complète. Et, alors que c'est la plus belle chose qu'il ait... Que l'humanité ait pu concevoir, c'est notre Dieu qui s'est incarné pour nous. On va lire un autre verset aussi dans 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Je vais le refaire un coup. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. On a été guéri, dit le malade. On a été guéri. Et le sacrifice qu'il a fait pour nous, il est... Il n'y a pas de mots. Moi, aujourd'hui, mes filles doivent partir en colonie de vacances cet été. Je ne suis pas bien, déjà. Alors, imaginez si je les envoyais... Se faire fouetter, finir sur une croix en sang. J'arrive déjà pas à les lâcher pour aller en colonie de vacances. Donc vous imaginez vraiment l'amour puissant dont Dieu a pu faire preuve pour nous montrer ça. Moi, ça me scotche. J'ai envie qu'on proclame quelque chose ce matin. C'est le sacrifice que Dieu a fait à ce moment-là, quand il a envoyé son fils, et ce que Jésus a fait pour nous. Ce sacrifice-là, on le voit dans tous les films d'Hollywood. Un père qui va sacrifier sa vie pour aller chercher son enfant. Après vous, ça vient d'où? 90% des scénarios d'Hollywood sont copiés-collés de la trame dramatique de la Bible. C'est un livre qui est sorti dans les années 60 qui montrait que tous les scénarios, je vais y arriver, étaient vraiment copiés sur la tension qu'il y a dans la Bible entre les victoires, les chutes, et à la fin, la délivrance totale. Tout est copié sur la Bible, ça c'est sûr et certain. Je retrouvais la référence du livre, je ne l'ai pas retrouvée, je vous la donnerai à l'occasion, mais tout est copié là-dessus. Et nous, ce matin, j'aimerais bien qu'on le dise ensemble. J'ai un père qui s'est sacrifié pour moi. J'ai un père qui s'est sacrifié pour moi. Par amour, uniquement par amour. J'ai un père qui s'est sacrifié pour moi. Moi, je peux le dire. Je ne suis pas à Hollywood, mais moi, si quelqu'un vient me dire, mon père, il s'est sacrifié pour moi. C'est quand même la classe. Est-ce que toi, aujourd'hui, en tant que père, tu n'aurais pas envie de te sacrifier pour ton enfant? Si. On le sait, on vit des choses dans cette église. Il y a aussi quelque chose, c'est pas dans les notes, mais Dieu, il veut qu'on soit semblable à ce cœur-là, à tous ces points-là que je vous ai donnés, plus encore d'autres. Et aujourd'hui, la société veut nous infantiliser au maximum. Pourquoi? Parce que si tu restes un enfant, tu ne deviens pas adulte, évidemment. Et si tu ne deviens pas adulte, bah, si tu es un homme, une femme en face, elle va te regarder, elle va dire bah, pff, non, il n'a pas ce que je recherche, il n'a pas cette sécurité, c'est encore un grand gamin. On a quand même inventé le terme adolescent. C'est un ado qui devient adulte. C'est-à-dire que c'est un mec, il a 40 piges, mais il continue de jouer 12 heures par jour à la console, il ne va pas bosser. Ce matin, je sais, là, ce matin, parmi nous, il y a des gens qui vont travailler tous les matins, qui se lèvent tôt et qui ramènent à manger, qui ramènent de l'argent de leur famille. Et déjà ça, au jour d'aujourd'hui, on peut s'applaudir pour ça. Hein. Vraiment, on peut s'applaudir pour ça. Les hommes qui... Ouais, on peut aller dialyser. Tous les hommes... Alors, je dis les hommes, mais vous m'excuserez, mais tous les hommes ou les femmes qui ramènent de l'argent pour leur foyer, vous êtes déjà dans les plans de Dieu. Vous êtes dans les plans du cœur de Dieu pour vous, pour vos familles, parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Je vois certains jeunes, ils ont 25, 30 ans et ils n'ont toujours pas de job ou c'est du précaire. Mais ce n'est pas du précaire. C'est pas du précaire parce qu'ils ne peuvent pas trouver un job. C'est juste parce qu'ils restent dans leur précarité, parce que ça les conforte dans leur ils vivent chez papa, maman jusqu'à très tard. Enfin voilà, c'est fait exprès. Ça, c'est un plan du père du mensonge pour que nous ne soyons pas des pères de famille, des pères, des mères, que tout fait en sorte qu'on reste à l'état d'enfant, en fait, pour qu'on ne soit pas des pères et qu'on ne soit pas dans le plan direct de Dieu pour nous. Voilà, c'était pas du tout dans mes notes, excusez-moi. Et j'avais une conclusion. Mais du coup, je ne vais pas faire du tout, parce que ça se terminait en chanson. Mais ma femme est partie avec les filles, donc il n'y a pas de problème pour changer les plans. Et juste, je bénis Dieu, parce que ce matin, bah, je n'avais pas envie de venir, parce que je suis crevé. Franchement, je suis crevé. Hier, je suis allé à Paris, je fais aller-retour à Paris pour aller chercher des costumes de mariage avec des amis qui vont se marier. Donc moi, je veux honorer le mariage. Donc je me rends présent. C'est moi qui conduis. On va à Paris, centre-ville. C'était la galère. Ça roulait mal avec les JO. Je suis revenu le soir. Déborah vomissait partout. Je vais me coucher. Elle m'appelle, elle pleure. Et pourquoi je suis content? Parce qu'en fait, Dieu, il m'a dit, ben, là, tu vas prêcher sur quelque chose. Et toi, tu vas aussi, ben, faut que tu le vives. Donc cette nuit, j'ai pu incarner ce que je vous prêche ce matin. Et que peu importe que j'ai des objectifs ce matin, que je sache qu'on doit ouvrir l'église, qu'on doit prêcher, j'ai pu changer mes plans pour l'amour de mes enfants. Et Dieu, il fera la même chose avec vous. Il changera ses plans par amour pour vous. Peu importe ce que ça lui coûte, il changera ses plans par amour pour vous. Donc j'aimerais juste qu'on termine en prière. J'avais prévu qu'on reprenne la chanson Cœur à cœur, parce que je trouve qu'elle est très très belle, cette chanson. Mais vous avez compris le message, on va prier tranquillement, à vos places. Si vous avez des choses à dire à Dieu, le Père, faites-le ce matin. Je vous encourage vraiment à lui parler comme tel, afin qu'on puisse vraiment découvrir toutes les facettes de son cœur. Merci Seigneur, vraiment, pour ces instants. Merci parce que dans cette église, il n'y a pas de faux-semblants. Dans cette église, les gens sont vrais. Et les gens sont comme toi, Seigneur, un cœur vrai. Merci parce qu'on est, au bénéfice vraiment de ta grâce ce matin. Merci d'avoir conduit ce culte. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués, accablés, malades, Seigneur. Et je sais que ce sont des attaques. Je ne suis pas du genre à tout spiritualiser, mais je sais que ce sont des attaques. On est en train de vivre des percées, il y a des choses qui bougent et on dérange le père du mensonge. Et ce matin, Seigneur, on veut continuer et on va proclamer que nous serons une église qui va déranger le père du mensonge jusqu'à la fin. On va déranger le père du mensonge jusqu'à la fin. Seigneur, fais de nous des fils et des filles adoptifs comme tu l'as fait, le cœur que tu veux pour nous, Seigneur. Tu veux qu'on ait ce cœur d'enfant sincère, humble, rempli d'amour, et qu'on vienne à toi en premier, Seigneur. Qu'on vienne à toi en premier, que ce soit notre réflexe premier de venir vers toi. Merci Seigneur encore pour tout ce que tu fais. On est éternellement reconnaissant et on sait que tu vas tous nous relever, nous guérir, et on a hâte de voir les plans merveilleux que tu as pour nous et pour cette église et cette ville de Beaune. On ne va rien lâcher, Seigneur. Amen. Amen. Merci les amis pour votre attention. Priez pour moi pour jeudi, pour l'opération. Ça vous dit, on se voit mardi pour ceux qui peuvent venir au groupe plus. Et puis on vous aime encore plus et toujours. Amen.